le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Cette semaine, c'est Jean-Marie Arribé qui nous livre sa chronique. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Tu es maître de conférences honoraires à l'Université de Bordeaux, membre des économistes atterrés. Et cette semaine, tu nous parles des COP qui tournent en rond.
Voilà. Alors, c'est une histoire qui dure depuis maintenant plusieurs décennies. Comme chaque année, et cela depuis 1995, l'ONU réunit les pays membres en application de la Convention sur le climat qui avait été adoptée à Rio de Janeiro en 1992. À cette conférence de Rio avaient été adoptées d'autres conventions que celle du climat, notamment sur la biodiversité, j'en reparlerai tout à l'heure, et sur les forêts. Et la première décision importante avait été, dans le cadre de la convention sur le climat avait été la signature du protocole de Kyoto en 1997, par lequel 38 pays riches s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en 2012 par rapport au niveau atteint en 1990. Mmh. Ce protocole a été mis en œuvre en Europe en 2005 par la création d'un marché de permis d'émission, dit familièrement un marché de droits à polluer. Alors d'autres COP que celle de 1997 ont été marquantes, notamment la COP numéro 15 à Copenhague en 2009, qui créa un fonds vert pour le climat et vit les pays riches s'engager à y verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à s'adapter au réchauffement du climat. Et encore plus célèbre est la COP 21 à Paris en 2015, qui avait vu les pays s'engager à rester en dessous de plus 1 degré Celsius. Mais jusqu'ici, et c'est là que commence le problème, les émissions ont continué d'augmenter allègrement dans le monde, au point que le GIEC, le groupe des experts sur le climat au sein de l'ONU, a averti que nous allions allègrement vers plus 3 et peut-être même plus 5 degrés Celsius à la fin du siècle. Et le GIEC continue en disant que nous n'avons plus que quelques années pour éviter un emballement du climat, avec une montée des océans importante, une modification du régime des pluies, sans parler des incendies, sécheresses et autres ouragans. Et le mois dernier, donc en novembre, la COP numéro 27 s'est réunie à Sharm el-Sheikh en Égypte, et qui a encore accouché d'une souris, une de plus. Alors, bien sûr, il y a eu un accord de principe conclu in extremis prévoyant de créer un fonds pour les pertes et dommages, c'est l'expression consacrée, pertes et dommages, causés aux pays pauvres par le développement depuis deux siècles des pays riches qui ont mis en branle le réchauffement du climat. Mais de nombreuses interrogations sur ce fonds subsistent. L'engagement d'une quarantaine de pays du nord de la planète à alimenter ce fonds suffira-t-il à couvrir les dépenses occasionnées, donc pour faire face à ce dont je parlais à l'instant, les sécheresses, les incendies, les ouragans, la montée des océans, etc., etc. Pour l'instant, 350 millions de dollars ont été promis. Bon, c'est quasiment une goutte d'eau dans les océans dilatés par le réchauffement. Et personne ne sait qui décidera de l'affectation de cette enveloppe et s'il s'agira de dons ou de prêts. C'est une question drôlement importante. De plus, ces sommes s'ajouteront-elles aux 100 milliards de dollars annuels prévus là, depuis la conférence de Copenhague, qui, elle, avait été prévue, ces sommes, pour financer la transition des pays en développement qui sont promis donc, depuis plus de 13 ans et qui n'ont jamais été atteints totalement. Alors, les évaluations des sommes nécessaires pour aider les pays pauvres grimpent chaque année, parce qu'on on les évalue entre 290 et 580 milliards par an jusqu'en 2030 et peut-être jusqu'à 1700 milliards au milieu du siècle. Le doute est donc permis quant à la fiabilité de ces engagements pris lors de la COP 27, surtout que cette COP n'a pas avancé d'un pas pour mettre en œuvre des politiques pour limiter véritablement le réchauffement du climat. Comme le GIEC affirme maintenant que la borne de plus 1 degré Celsius sera immanquablement dépassée pendant le XXIe siècle, les pays membres n'ont pris aucun engagement nouveau pour limiter les émissions. En particulier, le silence total est fait sur l'utilisation des énergies fossiles et les subventions qui continuent à être accordées à la production de celles-ci. Or, on sait que, et c'est toujours le GIEC qui parle, hein, que 4 000 milliards de dollars par an sont nécessaires pour assurer la transition énergétique vers les renouvelables, c'est-à-dire approximativement 5% du produit brut mondial annuel. Les intérêts des pays divergent trop pour qu'un consensus puisse s'établir. Le climat est aujourd'hui devenu un véritable enjeu dans les rapports de force géopolitiques. Et donc, il est à craindre que cette trajectoire vers les au moins plus 3 degrés Celsius, voire davantage à la fin du siècle, perdure. D'autre part, la COP27 n'a pas dit un mot sur l'autre COP, numéro 15 cette fois-ci, qui va s'ouvrir demain, 7 décembre, à Montréal, et qui, elle, porte sur la biodiversité. Je vous disais au début qu'à Rio de Janeiro, en 1992, avaient été adoptées 3 grandes conventions essentielles sur le climat, la biodiversité et la déforestation. Mais on sait que la biodiversité est mise en cause par le dérèglement climatique et le mode de développement dévastateur du capitalisme. Donc il y a un lien, même si ce sont deux sujets différents, traités par deux conventions différentes, il y a un lien quant à leur cause commune, puisque c'est le développement économique du capitalisme qui dévaste la planète, qui réchauffe le climat et qui menace la biodiversité, puisqu'on s'achemine peut-être vers la 6e extinction des espèces frappant la planète Terre. La même problématique donc à l'œuvre pour la biodiversité comme pour le climat. Bon, mais il ne suffit pas de critiquer ce qui se passe dans le monde entier. Il faut aussi balayer devant notre porte. La France se targue d'avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre sur son sol. Mais son empreinte carbone est au moins une fois et demie supérieure à ses émissions sur son sol, car il faut y intégrer les émissions qui sont contenues dans les produits importés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est de bon ton aujourd'hui d'incriminer la Chine, qui est devenue le plus gros émetteur du monde. Mais, d'une part, ces émissions chinoises ramenées par habitant sont très très inférieures à celles d'un États-Unien ou d'un Européen. Et d'autre part, c'est la Chine qui fournit les pays riches en grande quantité en produits manufacturés. Ce qui fait que notre retard devient abyssal en matière de mise en œuvre d'une politique fondée sur les énergies renouvelables. Et le Haut Conseil pour le climat en France a fait état de cette grande insuffisance de la politique qui est menée pour infléchir l'utilisation des énergies fossiles. Au final, les centaines de lobbyistes qui étaient présents en Égypte, à Sharm el-Sheikh, lors de la COP27, au nom des firmes produisant les énergies fossiles, ont davantage de quoi être satisfait que les habitants des pays pauvres et que l'humanité en général. Parce que, comme l'avait écrit Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans son roman Le Guépard, si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. C'est une formule qui avait été rendue célèbre par le film éponyme de Luchino Visconti. Mais voilà l'histoire des COP.
Très bien, merci beaucoup Jean-Marie Arribé. Ta chronique à retrouver en podcast sur laclédesondes.fr et sur la plateforme Spectre. Et on te retrouve d'ici un bon mois, en janvier, pour une prochaine chronique.
Pour l'année prochaine.
Voilà, merci beaucoup Jean-Marie, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Spectre.